L'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Relancer l'activité économique tout en réduisant la dépense publique, c'est l'objectif affiché par le gouvernement avec un projet de budget 2019 favorable aux actifs. Décryptage dans un instant avec Marie Viennot. 4164 postes de fonctionnaires d'État seront supprimés en 2019. Les ministères les plus touchés seront les comptes publics et l'éducation. À l'inverse, l'intérieur, la justice et la défense bénéficient d'effectifs en hausse. La Russie renforce la défense antiaérienne de son allié syrien, une mesure annoncée une semaine après la destruction par erreur d'un avion russe par les forces syriennes. Et puis l'Aquarius demande l'autorisation de débarquer à Marseille. Le navire humanitaire qui s'est vu retirer son pavillon par le Panama cherche un port d'accueil pour 58 migrants qu'il a secourus en mer. L'objectif à long terme de ce budget, c'est de construire une nouvelle prospérité bénéficiant à tous les Français et à tous les territoires, explique Bruno Le Maire. Cette prospérité, ajoute le ministre de l'Économie, ne doit pas reposer sur plus de dépenses publiques et plus d'impôts, mais sur plus de création de valeur. Le projet de budget pour 2009, présenté en Conseil des ministres, a donc été intitulé « Soutenir le travail, investir pour l'avenir ». Et cet axe assumé du soutien au travail se retrouve notamment dans les allègements de cotisations sociales et patronales pour réduire le coût du travail. Nous allons donc entrer avec vous, Marie Viennot, dans le détail de ces mesures. Le gouvernement met en avant le gain pour les salariés au SMIC, mais ça va bien au-delà.
Oui, dans tous les exemples qu'il donne, le gouvernement met en avant le gain de salaire pour un salarié au SMIC. Ainsi, nous dit-on, sur l'ensemble du quinquennat, un salarié au SMIC verra une revalorisation de ses revenus de l'ordre de 100 euros par mois, du fait de la prime pour l'emploi, qui va être augmentée de 20 euros et concerne les personnes qui gagnent entre 0,5 fois et 1,2 fois le SMIC, soit 1380 euros net par mois, du fait aussi de la suppression des cotisations sociales décidées en 2018 et du fait de l'exonération des cotisations sur les heures supplémentaires décidées pour 2019. Mais cette revalorisation des revenus ne concerne pas que les salariés au SMIC, elle concerne tous les salariés. Ainsi, l'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, ce sera un gain, à vos calculettes, de 11,3% de la rémunération brute perçue. Mais à partir de septembre, parce que cette mesure ne s'applique qu'à partir de septembre. Pour tout le monde encore, le basculement des cotisations salariales chômage et maladie vers la CSG, là c'est un gain de 1,45% de votre salaire brut par mois. Plus le salaire est grand, donc, plus l'avantage est important, on le comprend aisément. Voilà pourquoi, en dépit du discours selon lequel les allègements sont surtout pour les bas salaires, ces allègements seront plus forts en proportion pour ceux qui gagnent plus.
Et c'est la même chose pour les entreprises, Marie. Les allègements de cotisations patronales ne concernent pas que les salariés au SMIC.
Oui, l'allègement des cotisations sociales sur les bas salaires est une politique menée par tous les gouvernements français depuis, tenez-vous bien, 1993, 25 ans. Ces allègements de cotisations payés par les employeurs ont pour but d'alléger le coût du travail dans l'espoir de favoriser les embauches. Or, selon de nombreuses études économiques, l'impact est le plus fort quand on cible les bas salaires. Mais depuis le temps qu'on mène ces politiques, le curseur se déplace de plus en plus vers les salaires au-dessus du SMIC. Voilà pourquoi l'allègement des cotisations patronales de 4 points qui aura lieu à partir d'octobre 2019 concerne les salariés payés jusqu'à 1,6 fois le SMIC, soit jusqu'à 1840 euros net. La transformation du CICE en allègement permanent s'applique, elle, aux salaires qui vont jusqu'à 2,5 fois le SMIC, 2875 euros net par mois. Alors, l'allègement sera moins élevé, plus on grimpe dans le salaire, mais 2,5 fois le SMIC, on ne peut pas parler de bas salaire ou de salaire peu qualifié. Cette politique a bien sûr un coût pour les finances publiques, puisque l'État doit compenser ces allègements à la sécurité sociale, et l'an prochain, cela devrait coûter 40 milliards, mais cela devrait permettre de créer, selon Bruno Le Maire, 100 000 emplois d'ici 2021. Comme pour le CICE, les calculettes vont donc aussi tourner pour savoir combien d'argent public aura coûté chaque emploi créé.
Marie Viennot. Édouard Philippe avait initialement annoncé 4500 suppressions de postes dans le budget de l'État en 2019. C'est finalement un peu moins, 4164. Le ministère de l'Action et des Comptes Publics est le plus mis à contribution devant l'Éducation nationale et le ministère du Travail. Les arbitrages budgétaires du gouvernement sont plus favorables à la Défense, qui voit son budget augmenter de 4,9%. C'est 4,5% pour le ministère de la Justice, hausse plus importante encore que l'an passé, avec des effectifs augmentés de 1300 emplois. Laurence Blisson, secrétaire générale du syndicat de la magistrature, n'est pas totalement satisfaite pour autant.
C'est un budget qui est certes en augmentation, mais qui n'est pas du tout à la hauteur des besoins de la justice. On part d'une situation de pénurie lourde dans les juridictions, de tribunaux complètement sous-dimensionnés, dans lesquels il n'y a pas assez de juges et de magistrats. Et là, ce qu'on nous annonce, c'est à peine 100 postes de juges, 90 postes de greffiers en plus. C'est vraiment absolument insuffisant. Mais à vrai dire, il y a une logique à ce budget. Il va clairement dans le sens d'une réforme qui veut priver de l'accès à la justice un certain nombre de concitoyens en fermant des accès à des contentieux. C'est la pénitentiaire qui va effectivement absorber à la fois par la construction d'établissements pénitentiaires, alors même que pour lutter contre la surpopulation carcérale, il faut autre chose. Il va y avoir plus de personnel d'insertion et de probation, ça c'est plutôt une bonne chose, mais dans des proportions qui sont toujours insuffisantes. On a un trompe-l'œil qui est une augmentation du budget, une augmentation du nombre des personnels, mais on part de tellement bas qu'en réalité, on ne va pas du tout vers une situation satisfaisante. Et encore une fois, on a eu sur les années précédentes des augmentations des nombres de personnels, magistrats, fonctionnaires de greffe. Et aujourd'hui, on est clairement en deçà, puisqu'on est à 3 fois moins d'augmentation qu'en 2017. C'est vraiment quelque chose qui, pour nous, est absolument insatisfaisant.
Laurence Blisson du syndicat de la magistrature répondait à Florence Turme. Et puisqu'on en est à l'analyse critique de ce projet de budget, je me tourne vers vous Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir.
Les Républicains jouent leur rôle d'opposant en se montrant sévères vis-à-vis du projet de loi de finances, mais leurs arguments ne sont pas toujours convaincants.
Oui, à droite, c'est l'ancien ministre du budget et actuel président de la commission des finances à l'Assemblée, Éric Woerth, qui a été désigné pour critiquer ce projet de loi de finances 2019. Et il estime que ça va dans tous les sens. C'est un budget illisible, dit-il, résultat d'une politique brouillonne. Parce que, premièrement, selon lui, le gouvernement n'a pas profité de la croissance de 2018 pour assainir les finances publiques. Pire, explique Éric Woerth, on va se retrouver avec un déficit en 2019, 2,8% du PIB, plus important que celui de 2018, 2,6%. Résultat, conclut-il, ce budget est un rendez-vous manqué pour la réduction de la dette et des dépenses publiques. Et parallèlement, l'ancien ministre Les Républicains dénonce le message brouillé du gouvernement sur le pouvoir d'achat. Il y a les retraités qui, dit-il, ont l'impression de s'en prendre plein la figure. Et puis on ne peut pas, selon Éric Woerth, supprimer la taxe d'habitation et les 20 milliards d'euros qu'elle rapporte sans la compenser par d'autres impôts locaux. Vous voyez donc que la critique émanant de la droite par la bouche d'Éric Woerth est aussi embrouillée que le budget qu'il prétend dénoncer. Et cette ambiguïté est due au fait que les Républicains ont bien du mal à critiquer une politique économique qu'ils auraient en partie appliquée si leur candidat l'avait emporté en 2017.
Mais les critiques en provenance de la gauche ont elles aussi leur part de contradiction, Stéphane.
Oui, les critiques apparaissent un peu plus légitimes à gauche et c'est une autre experte des finances publiques qui monte au créneau sur cette question, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée, Valérie Rabault. Elle dit que ce budget n'est pas un budget en faveur du pouvoir d'achat, contrairement à ce que dit le gouvernement. Déjà, parce qu'il n'y a pas 6 milliards d'euros de baisse de fiscalité avec la suppression de la taxe d'habitation et de baisse des cotisations salariales pour les entreprises. C'est plutôt 3,5 milliards, comme le dit l'OFCE, l'Office français des conjonctures économiques. Et puis surtout, dit-elle, une partie de la population va voir son pouvoir d'achat diminuer, les retraités notamment, avec la non-revalorisation des pensions par rapport à l'inflation, et ceux qui habitent à la campagne avec la hausse des taxes sur le carburant. Alors certes, ces critiques émanant de la gauche s'entendent, mais elles ne sont pas effectivement sans contradiction si l'on considère que ceux qui les formulent appartenaient à la majorité qui, sous François Hollande, avait voté de fortes hausses d'impôts et mis en œuvre déjà une politique pro-entreprise.
Stéphane Robert, vous évoquiez la taxe sur les carburants. Effectivement, en face du pouvoir d'achat, des gains de pouvoir d'achat, il y a cette hausse des taxes sur le diesel qui coûtera 1,9 milliard aux ménages. Et le contexte est défavorable aux automobilistes, Jean-Marc Chardon, puisque les cours du pétrole ont grimpé de plus de 2% aujourd'hui.
Et oui, fini le pétrole bon marché. Du coup, les observateurs sont repartis pour faire tourner les simulations afin de savoir quel serait l'impact de l'augmentation des cours du pétrole sur l'économie de la France. Un impact qu'il est possible au moins d'évaluer en relevant les chiffres des approvisionnements énergétiques. Ce serait de l'ordre de 0,3%, mais ça pourrait aller jusqu'à 0,6%, c'est-à-dire un surcoût de plusieurs milliards d'euros. Elle affecte tout le monde, cette hausse, de la manière la plus visible pour les ménages. dommages par la hausse des prix du carburant, comme il représente une somme importante du budget des particuliers, environ 5%. Cela signifie que les relèvements de prix diminuent le pouvoir d'achat. Pas de quoi inciter à engager des dépenses supplémentaires, hausse de prix qui est d'ailleurs d'autant plus sensible qu'elle s'ajoute pour le diesel à une augmentation de taxes de 10% depuis le début de l'année. Alors on parle des ménages, des automobilistes, mais ça vaut tout autant pour les entreprises qui subissent aussi ces relèvements et peuvent les répercuter sur leurs prix. Et dans tous les cas, le problème c'est que ça alimente globalement une inflation qui a déjà bien repris. Autrement dit, le risque de voir une partie du pouvoir d'achat s'éroder un peu plus. Reste à savoir maintenant jusqu'où l'on ira. 90$ comme le pense JP Morgan. Ira-t-on jusqu'à 100$ comme d'autres? Le pronostic, ce n'est pas exclu non plus d'ici la fin de l'année, en tout cas au début de l'année prochaine. Sauf à ce que l'OPEP et les autres pays producteurs dont la Russie obéissent au dernier tweet de Donald Trump qui les incite à augmenter leur production pour faire baisser les prix, ce qui pour l'heure n'est pas dans leur intention, bien au contraire.
Jean-Marc Chardon, c'est un jeune Vendéen qui succède à Alexandre Benalla auprès d'Emmanuel Macron. C'est une information de France Bleu Loire-Océan. Jean Gabory, 25 ans, vient d'intégrer la chefferie de cabinet de l'Élysée où il travaillait déjà ponctuellement depuis le mois de mai. Il fait partie de ces quelques militants qui ont cru à Emmanuel Macron dès le début et ont participé à la création et à la structuration d'En Marche, Antoine Denecher.
28 mai 2016 à Nantes, le mouvement En Marche vient d'être créé. Un Vendéen de 23 ans organise un porte-à-porte. Il s'appelle Jean Gabory et répond à France Bleu Loire-Océan.
D'une certaine manière, on fait la promotion du ministre. Mais vraiment, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de venir en disant Emmanuel Macron, voilà, il faut voter pour lui. À ce que je sache, il n'est pas candidat. Nous, on va voir les gens en leur demandant qu'est-ce que vous pensez de l'état, de la situation de la France. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas.
La suite, on la connaît, l'ascension fulgurante d'Emmanuel Macron et de Jean Gabory dans son sillage. Titulaire d'un DUT Infocom, bénévole au Puy du Fou. Le voilà désormais à la chefferie de cabinet de l'Élysée à la place d'un certain Alexandre Benalla. Preuve que le président lui accorde une grande confiance, nous dit-on. Jean Gabory, ancien jeune socialiste, est en fait l'un des fondateurs des Jeunes avec Macron dès 2015. Le président a même de l'affection pour Jean, raconte une militante qui se souvient d'un petit déjeuner organisé par Jean Gabory le 20 août 2016 dans sa commune des Épaisses en Vendée, entre quelques marcheurs et celui qui est alors ministre. Après un passage au service presse de l'Élysée, ce jeune homme discret est aujourd'hui chargé donc d'organiser les déplacements du chef de l'État, mais pas la partie sécurité. Une mission qu'il connaît déjà, puisqu'on a pu voir Jean Gabory sur le terrain début juin préparer la visite d'Emmanuel Macron en Vendée.
L'Assemblée générale des Nations unies débute ce soir à New York avec 130 chefs d'État et de gouvernement réunis pendant une semaine. Le président américain Donald Trump est attendu à la tribune mercredi, mais il a dans l'immédiat d'autres préoccupations. Le président américain vient de décider de limoger le numéro 2 du ministère de la Justice. Rod Rosenstein supervise au ministère de la Justice l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur les ingérences russes dans la campagne présidentielle de 2016. Grégory Phillips, vous suivez ces derniers événements à Washington. Selon le New York Times, Rod Rosenstein aurait suggéré en 2017 la mise à l'écart de Donald Trump pour inaptitude à la fonction présidentielle.
Oui, ce que Rosenstein a d'ailleurs démenti en fin de semaine dernière, mais avec ce départ du numéro 2 du ministère de la Justice, eh bien c'est un coup de tonnerre ici aux États-Unis. Pourquoi? Eh bien parce que c'est lui qui, au sein de ce département, gérait cette enquête russe et supervisait les investigations du procureur spécial Robert Mueller, procureur indépendant et du FBI. Alors pourquoi cette charge revenait-elle à Rosenstein? Parce que le numéro 1 du département, Jeff Sessions, le ministre, s'était récusé, estimant qu'il était trop impliqué dans la campagne de Trump à l'époque et qu'il ne pouvait donc pas être à la fois jugé parti. Donald Trump d'ailleurs n'a cessé de lui reprocher très vertement, à tel point qu'on se demande depuis des semaines quand Sessions va sauter. Mais là, c'est donc le numéro 2 du département qui s'en va. Il a été convoqué ce matin à la Maison Blanche. Ce n'est pas très clair encore. On ne sait pas s'il est limogé ou bien s'il rend son tablier. En tout cas, Donald Trump va maintenant avoir les mains totalement libres pour nommer à ce poste quelqu'un de moins indépendant et qui, dans ce dossier qui empoisonne la présidence depuis un an et demi, pourrait être, disons, plus réceptif aux arguments de Trump qui, jour après jour, répète qu'il n'y a eu aucune collusion avec les Russes, pardon, et qu'il est victime d'une chasse aux sorcières.
Grégory Phillips, en direct de Washington. La Russie a décidé d'équiper les Syriens d'un système anti-aérien sophistiqué. Une mesure annoncée une semaine après le crash d'un avion russe en Syrie. C'était alors la défense anti-aérienne syrienne qui avait tiré, mais elle attribue la responsabilité du drame à l'armée israélienne qui menait un raid dans cette zone ce jour-là. La décision russe pourrait changer la donne pour Israël, engagé dans une importante campagne contre l'Iran. Les précisions d'Étienne Monin à Jérusalem.
Pour les Israéliens, c'est un potentiel coup de frein sur leur liberté d'action en Syrie et une menace supplémentaire dans la région. En Syrie, Israël mène une guerre dans la guerre. L'armée tente de faire respecter deux lignes rouges définies pour bloquer l'implantation militaire des Iraniens et la livraison d'armes sophistiquées au Hezbollah. Israël mène une campagne aérienne. Au départ, elle était feutrée. Elle est devenue quasiment publique. Plus de 200 sites ont été visés en 1 an et demi. Cette stratégie a été discutée au plus haut niveau avec les Russes. Un mécanisme de prévention a même été mis sur pied pour respecter les intérêts des deux pays. Mais ça n'a pas empêché lundi dernier le crash d'un avion russe touché par un tir syrien autour d'un raid israélien. Les relations avec Moscou ont semblé tenir, puis elles se sont sensiblement dégradées. Le ministère russe de la Défense tient maintenant Israël pour responsable. Il qualifie les Israéliens de têtes brûlées. Il prend donc parti pour les Syriens et il annonce une importante augmentation de leurs moyens de défense, avec la livraison de missiles anti-aériens de grande portée qui avait été promis à la Syrie il y a 8 ans, d'après les Russes, mais qui avait été jusqu'ici bloqué par Moscou sous la pression des Occidentaux et des Israéliens pour conserver leur supériorité aérienne.
Étienne Monin, correspondant de France Culture à Jérusalem. Depuis le début de l'année, plus de 1250 personnes se sont noyées en essayant de traverser la Méditerranée centrale, rappelle Médecins du Monde et SOS Méditerranée. Les deux ONG dénoncent le retrait de pavillons panaméens à l'Aquarius, décision qui interdit aux navires humanitaires de poursuivre ses activités de sauvetage de migrants. Or, c'est le seul navire de recherche et de sauvetage non gouvernemental encore présent dans cette zone. Marie-Pierre Véraud, vous avez suivi la conférence de presse de SOS Méditerranée et Médecins du Monde. L'Aquarius est actuellement en route vers Marseille et les ONG demandent à la France d'autoriser le débarquement des 58 migrants qui sont à bord.
Oui, c'est un geste exceptionnel et d'humanité que demandent Médecins sans frontières et SOS Méditerranée aux autorités françaises. Permettre effectivement le débarquement de ces 58 hommes, femmes, enfants, 18 mineurs, 3 petits-enfants, épuisés par les violences subies en Libye et par les conditions périlleuses de leur sauvetage. L'Aquarius à Marseille, comme port d'attache, c'est là qu'il peut espérer accoster et une fois les rescapés débarqués, travailler avec la France et l'Europe à retrouver un pavillon pour repartir dès que possible au large des côtes libyennes. Francis Valla, armateur et président de SOS Méditerranée France, ne décolère pas après l'annonce par le Panama qui lui retirait son pavillon, donc tout droit de naviguer sous la pression des autorités italiennes.
C'est du jamais vu. C'est un scandale absolu. Ça ne s'est jamais produit, au moins depuis la guerre. Quand vous battez le pavillon d'un pays, ce pavillon ne peut vous être retiré que parce que soit vous ne respectez pas les conventions internationales, soit vous ne respectez pas les règles du pays. Or, en l'occurrence, l'Aquarius est un navire qui respecte, qui fait plus que respecter tout ça. Et donc, c'est totalement incompréhensible et quelque part, c'est une honte. Je ne peux pas croire que les États qui sont des États de droit ne vont pas avoir un sursaut au niveau de ses principes et de ses valeurs. Et si on n'y arrive pas avec l'Europe, on ira chercher jusqu'au... dans le monde entier, un État qui accepte. Mais je veux encore croire au sursaut démocratique européen.
L'Aquarius est le dernier navire de sauvetage des ONG au large de la Libye, vous le disiez Aurélie, et ce n'est pas un hasard s'il est le dernier, selon Hassiba Hadj Al-Sarraoui, coordinatrice des affaires internationales à Médecins sans frontières.
C'est le résultat de politiques menées par différents membres de l'Union européenne, avec l'Italie en fer de lance, une politique de criminalisation de l'action des organisations humanitaires, une politique où on a vu les différents navires être saisis par les autorités judiciaires, toutes sortes de tracasseries administratives pour tenter d'arrêter notre participation aux activités de sauvetage en mer et aussi pour qu'ils s'assurent qu'il n'y ait pas de témoins à la coopération entre les autorités libyennes et les différents États européens en mer.
L'objectif de toutes ces opérations, c'est d'avoir zéro migrant débarquant sur les côtes européennes, dénoncent les ONG. Un objectif criminel, ajoute-t-elle.
Marie-Pierre Véraud avec Yvan Turc à la technique. Pour la deuxième fois, la Commission européenne saisit la Cour de justice européenne contre une réforme de la justice polonaise. Bruxelles s'inquiète de la réforme de la Cour suprême polonaise. Elle estime contraire au droit de l'Union l'abaissement de l'âge de départ à la retraite des juges de cette institution. C'est l'indépendance de la justice qui est menacée selon la Commission et elle réclame une procédure accélérée, Quentin Dickinson.
Oui, et cette procédure accélérée devant la Cour de justice de l'Union européenne qui siège à Luxembourg s'explique par la crainte de la Commission européenne que le gouvernement polonais mette les bouchées doubles et promulgue les décrets d'application de ces nouvelles lois portant réforme de la Cour suprême avant que la plainte de la Commission soit enregistrée par le greffe de la Cour. On ne peut pas dire que les autorités polonaises actuelles n'aient pas eu le temps de se préparer à cette éventualité. Dès le début de cette année, la Commission européenne avait eu vent des projets de réforme qui consistaient essentiellement en une mise à la retraite d'office des hauts magistrats de plus de 65 ans, c'est-à-dire le tiers d'entre eux, dont leur présidente. Cette initiative, clairement d'inspiration politique, était curieusement justifiée par Varsovie. Il s'agirait de purger la magistrature suprême de juges ayant débuté leur carrière sous le régime communiste. Gardienne des traités, la Commission européenne y a vu une disposition contraire au principe démocratique de l'inamovibilité des juges et après d'infructueux échanges avec le ministère polonais de la Justice, la Commission avait en juillet dernier mis en demeure Varsovie de se conformer à ce principe. Les explications fournies étant jugées insatisfaisantes, en août, la Commission accordait un mois à la Pologne pour revenir à de meilleurs sentiments sans résultat, d'où la saisine de la Cour européenne. Cette affaire n'est que l'une des trois procédures actuellement engagées contre la Pologne en raison de manquement grave au principe d'un état de droit. Aurélie.
Quentin Dickinson en direct de Bruxelles. Il fera beau demain mardi, beau mais très frais au petit matin avec 1 à 8 degrés sur la moitié nord, 6 à 21 dans le sud. L'après-midi, il fera 15 à 24 du nord au sud jusqu'à 27 sur la côte méditerranéenne. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.